Alors, Philippe Langlois, c'est aujourd'hui le dernier volet de cette série consacrée au cinéma d'animation.
Et oui, Patricia, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous terminons notre promenade sonore dans l'univers du cinéma d'animation, en compagnie cette fois-ci du cinéaste polonais Piotr Kamler, qui a débuté sa carrière en France dans le cadre du service de la recherche de l'ORTF, un service fondé et dirigé par Pierre Schaeffer entre 1960 et 1975. Appartenant au GRI, le groupe de recherche Images, Piotr Kamler y réalisera une vingtaine de courts-métrages, tous plus inventifs les uns que les autres. Des courts-métrages tous accompagnés par les musiques électroacoustiques des compositeurs du GRM, le groupe de recherche musicale. Nous avons pu joindre Piotr Kamler par téléphone à Varsovie. Gros plan donc sur ce pan méconnu de la création cinématographique avec Reflet en 1961, Lignes et Points en 66, Études 65, 1965, Délicieuse Catastrophe en 69 et Chronopolis 1982. Piotr Kamler, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, dans quelles circonstances vous avez rencontré Pierre Schaeffer ?
Oui, effectivement, c'était il y a très longtemps. Je l'ai rencontré à Paris, mais j'ai fait la connaissance de sa musique à Varsovie un an auparavant, pendant le festival de la musique contemporaine. Et j'ai été tellement intéressé que je ne rêvais que de le rencontrer vraiment. Et j'ai eu cette chance l'année suivante, quand je suis arrivé avec une bourse à Paris, avec un petit film que j'ai tourné au Beaux-Arts encore. Je l'ai emmené avec moi, c'était un petit film en 8 mm. C'était une suite de transformations, de montage interne de formes qui sans arrêt changeaient de place, de forme. C'était un film plus ou moins après. Et finalement, je l'ai montré à Pierre Schaeffer.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pratique de la musique concrète ?
J'ai été, depuis un certain temps, très intéressé par les nouveaux moyens dans les arts plastiques que je trouvais passionnants, c'est-à-dire le mouvement que je voulais introduire dans ce monde de formes figées. Et ce qui m'a passionné, c'était justement la méthode plutôt de Schaeffer qui prenait, c'est-à-dire la théorie d'objets sonores. C'est-à-dire qu'il prenait n'importe quel son, il le transformait en matériaux de construction du monde sonore. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir faire la même chose dans le monde de formes plastiques.
L'un des premiers films que vous ayez réalisé dans le cadre du service de la recherche, c'est le film Reflet, qui date de 1961.
Avec Malek.
Avec Ivo Malek. Alors, je crois que pour ce film, c'est la musique qui préexistait aux images. Il s'agissait d'une étude de fin de stage. Et Ivo Malek raconte que vous avez découvert donc sa musique lors d'une présentation des travaux de fin d'études de stage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette musique ?
C'était un de deux films qui était le plus conscient où la collaboration était consciente. Il me semble que ce qui m'a dû frapper, c'était la texture de ce son qui pouvait correspondre à ce que je faisais à ce moment-là, c'est-à-dire des images clignotantes, des images frémissantes, ou un rythme assez frénétique, assez rapide était élaboré. Je crois que c'est cela qui m'a dû frapper. Mais il me semble qu'effectivement, c'est un de rares, ou un de seuls, où cette correspondance était vraiment presque parfaite.
Pour obtenir une adéquation totale entre la musique et les images, Ivo Malek a confié à Piotr Kammler la partition sonore de Reflet. Ivo Malek.
J'ai fait un plan très précis, à la demi-seconde près.
Une partition, on pourrait dire.
Oui, une partition dessinée, si vous voulez, parce que la musique électroacoustique, on ne peut pas en avoir une partition dans le sens classique. Et donc, à partir de là, il y avait un schéma, si vous voulez, assez évolué pour que ça lui permette de construire son film à partir de ce schéma, sachant qu'il a écouté et qu'il écoutait la musique en parallèle tout le temps. Et alors ça lui a inspiré quelque chose qui pour moi était un bonheur, dans le sens où tout d'un coup j'ai découvert cette chose aussi merveilleuse, aussi simple, que vous êtes compris, tout simplement, que quelqu'un compris l'essence de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, c'est une musique un peu pleine de lumière, c'est une musique légère, transparente, qui joue un peu avec le drame, mais d'une manière aussi très, très passagère. Et donc, j'étais content, très content de ces images, parce que quand j'écoute, il m'arrive rarement, mais quand j'entends cette musique, ben, je vois les images de Kammler.
Alors vous avez également travaillé très étroitement en collaboration avec François Bayle, notamment quand vous avez réalisé le film « Lignes et points » en 1966. Comment s'est établie la relation audiovisuelle pour ce film ?
C'est allé encore plus loin, effectivement, et c'était la collaboration la plus consciente. Nous avons travaillé assez longtemps et continuellement nous proposions des images et des sons pour lequel nous cherchions les correspondances. Ce n'était pas une structure déjà faite, il m'avait proposé, mais plutôt le matériau de base. Et de mon côté aussi, je lui présentais des images et il faisait des correspondances sonores à cela. Et après, quand nous avons trouvé déjà suffisamment de ce matériau, nous commencions la composition, si on peut dire, ensemble. Oui, alors ça, c'était vraiment très intéressant comme expérience.
La correspondance, enfin déjà dans le titre même, « Lignes et points » et à l'écoute de la musique de François Bayle, on se rend compte immédiatement qu'il y a, d'une part dans la musique, deux composantes importantes, les impulsions, qui sont des impulsions très, très sèches, et d'autre part des résonances. On peut voir déjà, rien que là, peut-être une métaphore du titre « Lignes et points », non ? Vous ne pensez pas ?
Oui, des points de vue visuels aussi, c'était limité à des carrément lignes et carrément le point. Mmh. Évidemment, les lignes et points étaient de différentes couleurs, de différentes formes, flou ou très net, ou etc. Et ce qui était essentiel, c'est que tout était en mouvement, que il y avait un rythme, et le mouvement de tous ces éléments, mais quand même limité à ces deux formes, ligne, point.
Piotr Kammler a également réalisé bon nombre d'études audiovisuelles. L'une d'entre elles, étude 65, est traversée par des sortes de taches lunaires coupées par des spectres en pointillés dans un espace intersidéral aux couleurs minérales. Étude 65 est une application de la technique des poudres en tant que procédé d'animation, un procédé que Kammler a beaucoup utilisé dans ses films. Le monde dans lequel il nous introduit pourrait être celui d'une autre planète, ou peut-être même celui où des dernières traces de vie sur la Terre dévastée. Pour accompagner les images d'Étude 65, c'est la compositrice Béatrice Ferreira qui a été désignée. Béatrice Ferreira nous explique comment elle a procédé pour composer cette musique.
Il y avait toujours un fond dans ce film, un fond de couleur, un fond de... C'était des films pas vraiment tridimensionnels, mais il y avait des choses, des images qui bougeaient beaucoup, qui venaient, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et ce qui m'intéressait justement dans la musique et dans cette sorte de relation entre le son et l'image, c'était qu'on travaillait en mono. Et en mono, il n'y a pas de spatialisation hors musique, c'est-à-dire droite-gauche, de deux haut-parleurs. Il y avait un seul haut-parleur, il y avait la musique sur un seul haut-parleur. Et on travaillait comme ça, sur bon mono. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir si c'était possible de spatialiser la musique en mono, c'est-à-dire à la prise de son, ou avec des méthodes filtrage, réverbération, choses comme ça. Et c'est pour ça que j'avais fait un tout petit peu plaqué, si vous voulez, dans le film de Kammler, à peu près les mêmes éléments, types d'éléments, choses qui bougeaient, qui venaient de loin, loin près, si vous voulez, et puis quelque chose de stable qui bougeait dans le fond, comme c'était la couleur ou le fond de l'image de Kammler. Et c'est sur ça que je basais toute la construction, parce que la construction de Kammler était comme ça.
En 1969, Piotr Kammler réalise Délicieuse Catastrophe, un court-métrage qui présente un monde mystérieux et angoissant, monde de cauchemars fourmillant d'insectes étranges, où les lois de la pesanteur n'ont plus cours, où des sphères molles gravissent des escaliers, et où un personnage imaginaire lutte désespérément sur une plateforme surplombant une cuve pour ne pas être submergé par un liquide rouge qui s'y écoule goutte à goutte. L'univers de Piotr Kammler est construit sur le modèle des poupées russes, les poupées Matryoshka. Un monde gigogne qui en révèle un autre lorsque l'on pénètre à l'intérieur. D'une certaine manière, la musique concrète suit également ce principe. Il suffit de rapprocher le micro de la source sonore ou d'augmenter le gain du son pour découvrir un monde nouveau, une réalité sonore toute différente. Ce procédé n'est pas étranger à Robert Cohen-Solal lorsqu'il compose la musique de Délicieuse Catastrophe en mêlant des sons de flûte et des sources électroniques et en s'amusant à éveiller une perception toute nouvelle de ses timbres. Thank you. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport qui peut s'établir entre la musique électroacoustique et le cinéma d'animation ?
Écoutez, c'est un problème qui m'intéresse depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 40 ans. Il m'a tellement... c'était à l'époque le problème numéro un. Et pendant 40 ans, il y avait un trou noir, personne ne s'intéressait. Alors, ou bien c'était un faux problème, ou bien la civilisation est allée dans une mauvaise direction. Moi, je suis persuadé qu'il y a des choses intéressantes à faire dans ce domaine. Mais si pendant 40 ans, personne n'a rien fait, alors peut-être je me trompe.
Pour ma part, je ne pense pas que Piotr Kammler soit dans l'erreur. La musique électroacoustique est en effet propre à générer des atmosphères uniques, déconnectées de toute réalité acoustique référentielle. Du même coup, utilisée dans un film d'animation, elle participe autant que les images à créer une atmosphère particulière, à habiter l'imaginaire sonore d'un lieu, à faire entendre l'inouï. En 1982, Piotr Kammler réalise Chronopolis. Et c'est Luc Ferrari qui compose la musique de ce long métrage. Kammler y dépeint une société imaginaire qui fabrique du temps. Les personnages de ce lieu étrange sont évidemment immortels et vivent dans l'attente. L'attente d'un événement important qui doit survenir lors de la rencontre d'un instant particulier et d'un être humain, pour reprendre les mots de la fable. Luc Ferrari, qui a composé la musique de Chronopolis, joue avec l'idée de répétition évolutive. À sa manière, le compositeur crée également du temps. Indissociable de cette notion temporelle, l'idée de boucle, de défilement, de répétition est omniprésente dans la musique et dans les images de Chronopolis. Rencontre avec cet instant particulier, musique de Luc Ferrari. Tu vois, ce que j'entends s'achève et nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur la musique de Chronopolis. Merci à Marcel Ponty des productions AAA ainsi qu'à Piotr Kammler qui a bien voulu répondre à nos questions. Merci également au personnel de l'INAGRM pour la documentation musicale ainsi que monsieur Robert Cohen-Solal. Prise de son Patrick Henry, mixage Claude Courteau, réalisation Gilles Mardi-Rossian. Cette série vous était proposée par Philippe Langlois.